Vous écoutez Europe 1, belle journée, il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, vous faites bouger la France, on va vous le montrer. On a une heure pour ça chaque jour. Aujourd'hui, nous allons prendre le thé. La journée mondiale a lieu ce samedi et les acteurs français sont très dynamiques. Les plus anciens, comme les nouveaux d'ailleurs, la preuve dans quelques minutes sur Europe 1. À vos agendas, 2019 bien sûr avec la vigne aujourd'hui. Depuis 1958, elle nous met à la page avec aussi ses fameux almanachs et l'entreprise. Qui va bien, merci. Et puis, à quelques jours de Noël, les CE distribuent les chèques cadeaux. Et si on dématérialisait, c'est la solution inventée par We Do Gift. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, venez prendre la parole. Si vous êtes notamment consommateur de thé, on vous attend. Ce samedi, Anissa, ce sera la journée mondiale du thé.
Ben oui, il n'y a pas que chez les Anglais qu'on aime le tea time en France aussi. Alors venez nous en parler, vos témoignages, vos questions, vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. Je vais y arriver. C'est au 39-21, le standard d'Europe 1 dès maintenant. Et puis sur Twitter, on lit également tous vos messages avec le hashtag Europe 1.
Et oui, samedi, journée mondiale du thé. Et même s'il n'est pas récolté chez nous, il y a en France, vous allez le voir, un secteur très dynamique. Pour accueillir nos invités aujourd'hui à mes côtés, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach du jour, Riyad Boulanoir, cofondateur du compte Nickel, inventeur aussi de la méthode Boulanoir. Bonjour Riyad.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Le thé, les Français en boivent de plus en plus. Le marché est d'ailleurs en plein boom. De nouvelles références émergent, on va le voir ensemble aujourd'hui, à côté des grandes maisons françaises qu'on connaît tous, comme la Compagnie Coloniale. Bonjour Vincent Balaï.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez repris avec votre épouse cette maison de thé qui date de 1848, qui est la plus ancienne en France. Racontez-moi comment vous êtes-vous venu l'idée d'investir dans cette entreprise. Il y a 8 ans, je crois.
C'est ça, c'est en 2010. En fait, ça a commencé en 2009, l'aventure. J'ai découvert cette pépite qui avait des difficultés financières. Alors, moi, je venais de la pharmacie, je n'étais pas du tout dans le thé, mais j'étais déjà un bon consommateur de thé, j'appréciais le produit. C'est un produit génial. Et en fait, cette pépite n'attendait que un peu d'investissement et un peu de bonne intelligence pour repartir sur des bonnes rails.
Oui. Comment on fait justement quand on rachète une maison qui a 170 ans, qu'elle est un peu abîmée, comment on fait pour la remettre debout ?
Alors déjà, j'ai de la chance d'être sur un secteur d'activité qui est plutôt en pleine forme. Comme vous le disiez tout à l'heure justement, le thé en France connaît un boom depuis plusieurs années. Donc c'est toujours plus facile de reprendre une marque qui est dans un secteur porteur plutôt que de reprendre quelque chose dans un secteur un peu en difficulté. Donc il suffisait en fait de faire des choses simples, parce qu'il n'y avait vraiment plus rien de fait sur cette marque, c'était de donner déjà l'envie aux gens de recréer des choses, puisqu'il faut aussi être très, très actif sur la création de nouveautés, sur des arrivages aussi de thé un peu différents, et puis surtout de revoir un peu le mix marketing, en fait, donc le packaging, les conditions commerciales, etc. etc.
Elisabeth, le thé, c'est vrai, on en boit de plus en plus.
Ah hein. Oui, sans jeu de mots, c'est un marché en pleine ébullition. En France, la consommation a triplé ses 20 dernières années et 6 personnes sur 10 consomment du thé en France. Les plus gros consommateurs de thé sont les 65 ans et plus, c'est ce qu'il se dit. Bon, j'ai l'impression que, enfin, en tout cas nous autour de cette table,
on n'a pas 65 ans,
on
n'a
pas encore
65
ans et nous en buvons et nous aimons cela. Et vous avez peut-être remarqué, dans la grande distribution, il se décline aujourd'hui sous une multitude de formes, en vrac, en sachet, mais aussi en capsules, les capsules qui vont dans des machines spécialement conçues pour le thé.
Et je crois que vous avez trouvé aussi des thé box, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, alors on en boit tellement qu'il y a eu des entrepreneurs qui se sont mis sur ce marché en se disant « Tiens, pourquoi je ne livrerai pas du thé, des sortes de thé une fois par mois chez des consommateurs passionnés ?» Donc vous avez lathébox.fr, vous recevez chaque mois une boîte remplie de merveilleuses découvertes, c'est tout de même 22 euros le mois, ou encore envoûté.com, T-T-H-E.com, 59,90 € par trimestre. Et c'est merveilleux, hein, les deux sites là sont absolument magnifiques.
La compagnie coloniale Vincent Balahi, c'est aujourd'hui une entreprise qui est basée à Poitiers. Vous avez déménagé, hein, c'est ça ?
La marque avait été déménagée dans les années 90 par Unilever, mm-hmm. qui était propriétaire
qui
de la marque.
Qui était propriétaire au départ, oui.
Dans une usine qui leur appartenait. Donc on est toujours resté là-bas, en fait. Et effectivement, tout se fait sur place. C'est-à-dire que nous, on importe le thé nature, noir, vert, blanc. Et on le mélange et on l'aromatise et on le conditionne en sachets, en boîtes, en kilos, pour répondre à nos différents clients.
Oui, et vous êtes adjoint les services d'un chef pâtissier, parce que vous considérez finalement que le thé, c'est une création, donc il fallait quelqu'un pour créer vos...
C'est-à-dire, quand je suis arrivé, il y avait un mélangeur, un oui, aromatiseur,
qui
est parti à la retraite en 2012, donc il fallait le remplacer.
Et c'est un métier qui n'existe pas.
Absolument.
Pour quelle raison ?
Parce qu'il y a déjà... plus beaucoup de faiseurs de thé en France, parce que la plupart du thé que nous buvons, comme vous citiez la grande distribution tout à l'heure, n'est pas fait en France. Donc, quand je l'ai vu travailler, j'ai vraiment vu que c'était le rôle, c'était le métier de pâtissier, parce qu'il prend le thé dans sa main quand il est en train d'être aromatisé, il le teste autant au toucher qu'au goût et qu'à l'odeur, et en fonction de ça, il arrête la machine ou pas.
Pardon, mais dans la grande distribution, on trouve des thés assemblés en France. Hein.
Oui,
il n'y a pas que des thés étrangers. Alors, hein.
Je me permets, il y a surtout beaucoup de tisane, en fait, plus que de thé. Parce que la grande partie des grandes marques connues en grande distribution n'est plus faite en France. Elle était faite puisque Lipton produisait en France il y a quelques années.
Mais il y en a d'autres, on en citera.
On va en parler. Mais la grande distribution s'intéresse beaucoup au Made in France aussi.
Oui, forcément, parce que c'est très porteur et on va le voir d'ici quelques minutes. Je voudrais que notre coach nous donne son avis sur la compagnie coloniale et sur cette reprise d'activité.
Moi, c'est la question que je me posais. C'est quoi le facteur différenciant pour se concurrencer, pour être face aux autres concurrents sur du thé, puisque vous me dites que vous l'importez.
Oui, forcément.
C'est juste le mélange et le marketing qui fait vraiment la différence.
Bien sûr, il y a le mélange, mais toutes les recettes sont faites par nous. Alors, l'année dernière, par exemple, on a fêté les 80 ans d'une recette qui existe, donc qui est Chine Extra, qui est un thé légèrement fumé que nous faisons depuis donc, les années 1936-1937. Donc, on a une vraie histoire sur nos recettes et notre savoir-faire.
C'est des recettes secrètes comme le coca ou
Secrètes. Oui, c'est sûr qu'on ne les divulgue pas, mais c'est très difficile de copier un thé parce que vous ne savez pas d'où vient le thé, la base du thé. Si vous prenez un thé noir, par exemple, alors nous, déjà, notre Earl Grey, il y a trois thés dans notre Earl Grey. Il y a trois origines différentes. Donc déjà, il faut savoir d'où elles viennent, d'où viennent ces différents thés. Ensuite, il y a la proportion de chaque thé. Donc, ce n'est pas forcément 30% ou 33% chacun. Mm-hmm. Et après, il y a l'arôme. Parce que dans les arômes, vous avez toutes sortes de qualités. Vous pouvez acheter des arômes à 1,50€ le litre, comme vous pouvez acheter le même arôme à 150€ le litre.
On parlait du thé, il y a évidemment ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, il y a la boîte aussi. Oui. Vous avez tenu à fabriquer ici en France, hein. Voilà. C'était important pour vous d'avoir vraiment un produit made in France.
Ça c'est vrai que si le thé ne vient pas de France, tout ce qui l'entoure chez nous vient de France. Autant le carton, même la boîte métal qui d'avant venait de Chine, parce qu'on sait que les boîtes métal sont surtout faites en Chine. On peut trouver des fabricants de boîtes métal en France. Donc ça c'est aussi notre différentiel, c'est de faire du made in France.
Et le pourcentage du prix de la boîte dans le prix du thé ?
Alors ça, c'est une bonne question.
Il a toujours de très bonnes questions.
La boîte métal faite en France n'est pas beaucoup plus chère qu'en Chine, franchement. En plus, il y a les frais de port que vous n'avez pas et les douanes. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc non, même dans une boîte métal dans laquelle vous avez 120 grammes de thé, il y a plus de valeur en thé qu'en boîte.
Et en tout cas, ça marche, hein, puisque vous avez, je crois, doublé votre chiffre d'affaires en 4 ans.
C'est ça.
Ça veut dire que la reprise.
Marche, mais encore une fois, parce qu'on est sur un marché porteur. Voilà, et on est sur un marché porteur, donc ça, c'est très intéressant.
Et ce marché du thé, on va continuer à en parler ensemble sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Vous allez voir qu'il y a en France de nouvelles pousses qui voient le jour. C'est le cas de Omaïti, qui s'est lancé il y a 2 ans à peine. C'est ça, la France qui bouge. À tout de suite.
Eh bien, on parle de votre boisson préférée jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et on parle du thé à la française avec de nombreuses découvertes aujourd'hui grâce à vos invités. Raphaël Duchemin, vous pouvez témoigner, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à réagir au 3921, c'est le standard d'Europe 1 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nous sommes toujours avec Elisabeth Assayag et avec notre coach aujourd'hui Riyad Boulanoir, consommer du thé autrement. C'est un peu le credo, finalement, de Omaïti qui s'est positionné à Paris il y a 2 ans de cela. Bonjour Charles Sarfati.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez cofondé cette nouvelle maison de thé. Je crois que vous avez fait vos études au Canada. C'est là-bas que ça vous a pris cette envie de thé ?
Alors, effectivement, On a commencé ça il y a 2 ans en termes d'activité avec mon associé Adrien Laurentin. Mais effectivement, l'idée a émergé il y a 4 ans maintenant. Mm-hmm. On avait une 20aine d'années, Adrien et moi. Moi, j'étais au Canada, du coup, où j'étais un peu en cure de coffee détox. C'est-à-dire que je buvais une dizaine de cafés par jour à 20 ans. On va dire qu'on commence à se remettre en question et avoir beaucoup d'insomnie. Et c'est là où l'idée du thé est arrivée en moi.
Vous avez voulu arrêter le café, vous êtes passé au thé.
Voilà, mais c'était un peu un produit méconnu pour moi. On avait beaucoup d'a priori sur le côté un peu grand-mérisant, un peu trop féminin aussi.
Donc porcelaine anglaise, petit napperon, etc., les scones, tout ça.
Et un peu féminin aussi, mine de rien. Hein. Mm-hmm. Et donc du coup, on s'est dit que c'était pas normal qu'à notre âge, on ait ce genre de perception. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose de différent. Et Adrien, mon associé, lui, il est parti en Chine. Et là, c'est là qu'il a vu que le thé, c'était une véritable institution sociale. Qu'on soit jeune, vieux, une femme, un homme, catégorie sociale supérieure ou inférieure, tout le monde consommait du thé. Et on s'est retrouvés sur cette idée quand on est rentrés tous les deux en France.
Donc, vous vous êtes intéressé au thé. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Vous vous êtes dit qu'en France, il y avait un potentiel aussi, comme en Chine ou comme au Canada?
Alors, en fait, oui, il y a un potentiel énorme. Initialement, notre idée, nous, c'était plutôt de toucher une clientèle un peu plus jeune. Hein, on ne va pas se mentir. Je pense que quand on parlera de nos produits, ça serait assez évident. Et on voulait surtout stimuler l'envie des gens de prendre soin d'eux grâce au thé, mais aussi grâce aux plantes. Donc, on a aussi une gamme d'infusions bio exceptionnelle. On a travaillé du coup des recettes avec une herbaliste qui nous a permis d'avoir une sorte d'expertise pour alléger le quotidien de nos potentiels consommateurs. Et aussi, on a retravaillé bien évidemment un packaging, une sorte de marketing un peu pédagogique pour essayer d'atteindre cette nouvelle cible qui ne serait pas rentrée en gros dans un magasin de thé spécialisé initialement.
Donc, vous avez souhaité donner une tonalité un peu plus humoristique, un peu plus jeune, un petit coup de jeune sur le thé. C'est pour ça que vous avez... Alors, on a par exemple After Hangover, on a Before la crève, on a Before un rendez-vous avec mon boss. Tiens, ça peut servir.
C'est relaxant, exactement.
Before un Big Dodo. Noël Everyday, et puis, alors attendez, celui-là c'est pour moi, Before le maillot de bain.
Voilà, exactement. Alors en fait, on a différentes recettes bien-être. On a aussi des thés classiques parce qu'on travaille avec beaucoup d'hôtels et restaurants haut de gamme, donc on était obligé d'avoir une certaine offre assez globale, des thés naturels, bien évidemment, mais classiques. Et après, on a cette offre de thés bien-être qui est clairement ce qui nous tire vers le haut parce que c'est ce qui est très porteur, c'est ce qui plaît beaucoup. Vous allez avoir par exemple notre Before After Sport qui a eu la médaille de bronze. Au concours des épicures organisé par le monde de l'épicerie fine. Donc on en est vraiment très très fiers. Vous aurez de la prêle, de l'ortie, de la feuille de framboisier et qui va contribuer à la remunération musculaire. Avant, après l'effort, bien sûr.
Ouais, on voit qu'il y a énormément de changements au niveau des goûts, hein, Elisabeth. Les parfums sont vraiment variés ces dernières années.
Oui, parce qu'il y a le thé vert, hein, le thé vert qui connaît un succès considérable parce qu'on connaît de plus en plus les vertus et les bienfaits du thé vert. Vous avez les thés standards que l'on boit au petit déjeuner, hein, le thé breakfast, le thé Earl Grey qui sont des thés noirs. Que vous agrémentez plus ou moins, mais ça reste une base noire. Et le thé blanc, alors le thé blanc, lui, il est en perte de vitesse et il voit ses ventes reculer depuis environ une petite dizaine d'années.
Oui, je vous vois tiquer, Vincent Balaï.
Oui, parce que nous, on a lancé un thé blanc aromatisé il y a 2 ans et il cartonne.
Ah, mais
j'ai pas regardé les chiffres sur le thé. Alors, c'est vrai que le thé blanc, c'est un thé plus rare parce que c'est vraiment le bourgeon qu'on ramasse à peine éclos. Et donc, il y en a très peu en production. Donc, il est peu connu. Et il est très cher. C'est pour ça que quand on veut découvrir le thé, on commence peut-être pas par le thé blanc.
Et puis, vous me disiez tout à l'heure, attention, dans le thé, il y a aussi effectivement les infusions. C'est la même chose. L'infusion, c'est un thé.
Voilà. En fait, on dit plutôt tisane et thé. Oui. Parce que les deux sont des infusions. On infuse le thé, on infuse les tisanes. D'ailleurs, les Anglais appellent les tisanes herbal tea. Vous voyez, c'est un thé
herbal.
Voilà. Un thé d'herbe.
Un thé d'herbe, exactement.
Alors, que dit notre coach à propos de ce Home IT?
Moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, je vois que tous les entrepreneurs, ils peuvent exprimer leur créativité. Alors, que ce soit aussi bien de l'ancien, comme on l'a vu avec la maison coloniale.
Du traditionnel.
Non, mais j'imagine aussi qu'il y a une gamme. Là, on arrive sur des gammes beaucoup plus jeunes. D'ailleurs, vous avez réussi à toucher votre cible?
Alors, clairement, on n'a que 2 ans d'activité, hein, donc on a eu quand même le découvrir au fur et à mesure. Effectivement, nous, initialement, on voulait cibler plutôt une clientèle assez jeune. Et en fait, on se rend compte que même les un peu moins jeunes, disons, entre guillemets, aiment beaucoup aussi ce qu'on fait. On voit des petites grand-mères de 70 ans qui, à mon avis, n'ont pas fait de sport depuis des années, qui boivent du Before After Sport parce qu'ils veulent aussi du bio, du bien-être, du naturel, bien évidemment. Et aussi peut-être que ce qu'ils consommaient avant aussi commence à les... Voilà, ils veulent changer.
Ce qu'on n'a pas dit, Charles, c'est que vous travaillez aussi pas mal avec des artistes hein, alors, pour créer le packaging, pas seulement d'ailleurs.
Alors, les artistes, c'est plus dans notre cadre, notre activité hôtelière en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a été référencé il y a un an maintenant par le groupe Accor Hôtel, avec lesquels on a, ouais, on a créé une offre assez complète pour l'hôtellerie et la restauration.
Ça vous donne de la visibilité.
De la visibilité, bien évidemment. Ça nous forme, on est compétents. Donc là, c'est l'avantage de travailler avec des grands groupes, c'est que... Les startups de travailler avec des grands groupes, c'est que nous, on a leur expertise et eux, on a et eux, ils ont l'agilité des startups. Donc ça, c'est vraiment génial. Et dans le cadre de cette nouvelle offre, on a créé effectivement une offre de présentoir personnalisable par des artistes pour les hôtels haut de gamme, effectivement.
Combien de personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui ?
5 en plus de nous. Et après, on a bien évidemment des collaborateurs qui sont comme une partie intégrante de notre entreprise, même si non salariés pour l'instant.
Allez, on va accueillir notre troisième invité ensemble dans un instant.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et le Canada, décidément source d'inspiration, c'est aussi là-bas qu'est née l'idée de T-Tap. A tout de suite sur Europe.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge. Aujourd'hui, on découvre les thés à la française à l'occasion de la Journée mondiale du thé. Ça sera le 15 décembre prochain avec vos invités Raphaël Duchemin. Vous pouvez poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et on attend également vos appels au 3921, le standard d'Europe 1.
Eh oui, parce que vous êtes invités à réagir, à nous dire si vous consommez du thé, si vous aimez le thé froid, chaud, le thé noir, le thé vert, le thé blanc. Hein. Vous verrez qu'il y a de nombreuses variétés. On a même Zebrinus Maximus qui nous dit sur Twitter, ça c'est pour moi parce que j'ai dit qu'on ne produisait pas tout à l'heure de thé en France. Faux, il y a du thé en France, devinez où ? Sur l'île de la Réunion qui est, rappelons-le, me dit-il, un département français. Vous avez raison de le signaler, voilà, c'est réparé. Alors le thé n'est pas réservé aux seniors, on est bien d'accord pour le dire. Hein. Ici, il se boit à toute heure, pas qu'à 17h. Et il s'adresse aussi aux jeunes, on l'a vu, et se consomme quelle que soit l'heure de la journée. C'est au Canada que trois amis se sont aperçus que le thé s'était démocratisé. Bonjour Quentin Mullier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez donc cofondé T-Tap à Villeneuve-d'Ascq, chez vous. Après avoir passé 10 ans, je crois, au Canada, vous faisiez de la bière là-bas, rien à voir.
Exactement. On faisait de la bière au Canada et c'est là-bas au Canada où j'ai eu l'envie et l'idée de me lancer dans le thé avec François, mon associé.
Pourquoi donc... Pourquoi le thé ?
Le thé, parce que c'était une boisson qui m'a toujours passionné. C'était une boisson que j'ai redécouvert, je pense, au Canada sous un nouvel angle. Très en vogue, très à la mode et surtout bien-être. Donc non, c'est vraiment une boisson qui m'a énormément tenté, m'a donné envie de me lancer. Et voilà, je suis passé du thé, de la bière au thé.
De la bière au thé. Vous avez eu surtout envie de le vendre en vrac, ce thé. On le voit hein, sur Europe1.fr. Vous nous avez amené des échantillons de ce que vous faites aujourd'hui. On a du thé blanc, on a du thé maté aussi, maté du souk, Summer Memories. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre thé, aujourd'hui ? Comment vous le définiriez ?
Alors, en fait, nous, notre thé, notre force, c'est déjà, on est trois associés, dont un né du thé. Donc, il s'appelle Richard, il a 40 ans d'expérience là-dedans. Lui, son métier, finalement, c'est d'aller en Asie, d'aller rencontrer les producteurs. Il sélectionne les jardins avec qui on travaille. Et derrière, il va créer les recettes. Donc, toutes les recettes, les 60 thés, infusions, maté, rooibos que nous avons, ce sont toutes ces créations. Donc, voilà, on a des thés classiques, donc des thés d'origine, et également des thés aromatisés. Plus de 40% de notre gamme sont des thés biologiques et le reste sont issus de l'agriculture raisonnée.
Et ça fait un an et demi, c'est ça, que vous êtes lancé commercialement parlant, hein, j'ose dire.
Exactement. On s'est lancé il y a un an et demi. Du coup, on est sur quatre créneaux. Donc, on vend sur Internet, sur titap.com. Mm-hmm. On fait beaucoup d'événements, des marchés alimentaires notamment, parce qu'on s'est rendu compte qu'avoir la proximité avec les clients directement, c'est beaucoup plus simple pour leur vendre le produit et pour les convertir et les faire commander plus tard sur Internet.
Que dit le coach ?
Je dis que c'est génial, on parle du même produit depuis tout à l'heure et il y a trois sociétés qui vont bien. Je voulais savoir, il se passe quoi au Canada là, pour avoir envie de créer des boîtes comme ça,
ouais,
de
revenir bon, en fait, ici. Il fait froid déjà. Ouais. Non, en fait, ce qui se passe, c'est juste qu'il y a eu certaines marques qui se sont développées, qui ont lancé des concepts. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est le matin, en allant au travail, en prenant la rue Sherbrooke à Montréal, il y a des magasins de thé et à 8h du mat, il y a 15 personnes qui font la queue en attendant que ça ouvre. Et les jeunes, ils partent avec leur tasse de thé, ils vont en cours. C'est du jamais vu en France. Je me dis, mais il y a tellement un créneau. Je me dis, c'est sûr, ça va exploser. C'est en train d'exploser en Europe. Allons-y, on se lance. let's go, et puis voilà. Voilà.
Ouais, même chose pour vous, hein, j'imagine, moins, ouais, Charles.
Je pense qu'on est un petit peu moins dans les le Montréal, du moins, parce que moi aussi, c'est du coup là où j'ai fait mes
études. Oui, oui.
Je pense qu'on a une approche un peu plus ouverte sur la nouveauté ou sur les préjugés ou les idées un peu préconçues qu'on avait. Effectivement, ce que Quentin dit est totalement vrai. Aussi bien qu'on peut avoir une sorte de tasse de café à la main, comme la culture nord-américaine peut le faire en avant, le mettre en avant. Maintenant, c'est le thé. Et ce que dit Quentin est vrai. Des jeunes, maintenant, ont du thé à la place du café, et maintenant.
Et Elisabeth, ils le mettent dans des grands
exactement
mugs,
pareil,
exactement comme le café.
Exactement,
c'est bu de la même façon.
Pareil.
Elisabeth, on a trois marques, trois très belles marques hein, françaises autour de la table ici à Europe 1, mais il y en a d'autres qui ont retenu, je crois, votre attention.
Oui, tout à fait. Alors, on a une entreprise alsacienne qui existe depuis 25 ans. Vous la connaissez peut-être, les Jardins de Gaïa. Tout leur thé est transformé en France. Vous avez le Palais des Thés qui a été fondé à Paris en 1986. Tonnerre de Brest qui a retenu mon attention. C'est du thé aux algues, made in Morbihan. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils ont 115 référence de thé, 85% bio. Eux, ils travaillent les thés noirs, les rooibos d'Afrique du Sud et ils y ajoutent des algues sèches. Et il y a aussi des investissements dans le thé. La preuve avec la famille Cluzel que vous connaissez pour le chocolat dans l'heure, eh bien, eux, ils viennent de mettre la main sur la maison de thé Bechban et Burton.
Et puis, il y a des entreprises de thé qui ont su aussi se reconstruire. Ça, c'est important.
Oui,
on pense évidemment au Fralib. Hein.
Et évidemment, hein, Fralib, ils se sont organisés en SCOP, hein, en coopérative ouvrière. Ça fait un peu plus de 4 ans. Ce sont les ex-Fralib qui ont réussi à relancer la production de leur usine. Je vous fais un petit rappel. En 2010, c'était Unilever qui annonçait le transfert de la production des thés Lipton et Elephant de Gémonos vers la Pologne. 4 ans après, un accord entre Unilever et les ouvriers qui occupaient donc à l'époque l'usine. Et donc, ces ouvriers ont créé cette coopérative ouvrière. 2015, ça fait 3 ans, lancement de la marque 1336. C'est du thé 100% naturel qu'on trouve en vente, notamment dans la grande distribution.
Ouais, Unilever qui avait aussi, hein, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, Vincent Balaï, la compagnie coloniale et qui est revenue d'ailleurs vers vous, je crois. Hein.
Oui, j'ai eu un appel en 2012-2013. Effectivement, ils seraient intéressés. Ils étaient intéressés à l'époque de reprendre la marque, mais c'était trop tard.
Oui, trop tard parce qu'entre-temps, vous étiez là et vous voilà. L'aviez relevé comme il se doit.
Et surtout, je m'amuse énormément avec cette société qui distribue des produits très intéressants.
Oui, vous vous amusez aussi, j'imagine, tous les deux, Charles.
Tous les jours. Tous les jours.
C'est un vrai plaisir.
Et c'est le principal. On reste ensemble, on va s'amuser et on va continuer à boire du thé.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et on vous attend, vous venez bien sûr, 39-21. Vous composez le standard d'Europe 1. On est ensemble et on répond à toutes vos questions. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h. Et aujourd'hui, on découvre les thés français à l'occasion de la journée mondiale du thé. Ça sera le 15 décembre prochain, ce vendredi. Vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission. N'hésitez pas. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Et Twitter, vos messages, vos réactions avec le hashtag Europe 1.
Toujours avec Elisabeth Assayag, avec Riyad Boulanoir qui est notre coach aujourd'hui. On parle du thé à la française avec Vincent Balaï qui dirige et qui a repris la compagnie coloniale, la plus ancienne maison de thé française, fondée en 1848, avec Charles Sarfati, cofondateur d'Omaiti, avec Quentin Mullier, fondateur de Titap. Je voudrais vous lire un premier message de Soldat Guerrier qui nous dit: le thé le plus consommé en France, c'est quoi? Entre parenthèses, il nous dit merci aussi. Hein. Continuez comme ça, ça nous fait toujours plaisir. Alors, c'est quoi? Quelqu'un a la réponse? Charles, Quentin?
Moi, je pense que c'est encore le Earl Grey ou le thé vermante. Alors, parce que le thé vermante, en France, on a un héritage par rapport à l'Afrique du Sud, où il y a le thé vermante, parce que partout, quand on ouvre une nouvelle boutique...
Ça veut dire qu'on reste traditionnel, quand même.
Ah oui, complètement. Mais c'est dans la parfumerie, c'est pareil. Quels sont les parfums les plus vendus en France? C'est des parfums qui ont 80 ou 85 ans. Même si on en sort 300 par an, dans le thé, pareil, on revient toujours assez classique, en fait.
Elisabeth.
Mais on attire aujourd'hui, on le constate, on attire les nouveaux consommateurs de thé par les thés aromatisés et non pas par les thés traditionnels.
Oui.
On a pas mal de messages. Hein. Le thé le plus consommé en France, c'est quoi? On avait aussi une question d'Evelyne. Evelyne qui nous appelait de Tanneron dans le Var et qui nous dit: j'ai entendu dire qu'abuser de thé vert serait mauvais pour les reins. Est-ce que c'est vrai? Alors, on n'est pas spécialiste, mais quand même.
Non, et puis je ne donnerai pas de conseils médicaux non plus, je ne suis pas médecin. Mais effectivement, le thé vert pour les femmes, ça peut empêcher la fixation du fer. Donc il ne faut pas en abuser. Mais bon, si vous en buvez effectivement plus d'un litre par jour, voilà, l'eau c'est dangereux, on peut se noyer.
C'est pour ça qu'on conseille le rooibos d'ailleurs pour les femmes enceintes hein, pendant ces périodes-là.
Il y a des thés à ne pas boire pendant certaines périodes ou des thés à boire plutôt.
À limiter surtout.
À limiter, ouais, par exemple.
Bah, tout ce qui est thé vert pendant une période de grossesse ou d'allaitement, c'est sûr, c'est déconseillé. Alors vous pouvez
boire une
tasse.
Vous
buvez une tasse par jour, c'est suffisant. Mais du coup, ouais, en effet, le rooibos, qui est une plante d'Afrique du Sud et qui est même bien fait que le thé, mais sans théine, là vous pouvez vous régaler, vous faire aussi plaisir. Voilà.
Et les infusions aussi, du coup. Hein.
Et les infusions.
Finalement, le soir.
Toutes les tisanes françaises, oui, tilleul, verveine ou autres.
Voir les mélanges aussi.
Voir les mélanges entre verveine et menthe.
Maintenant, les mélanges, c'est infini.
Reine des prés.
Nous avons Isabelle qui nous a appelé au 3921 et qui est à Lyon. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Je crois que vous avez une histoire à nous raconter, Isabelle.
Oui, j'ai été contactée, je suis donc sculpteur de bronze, et j'ai été contactée par un couple, Nathalie et Daniel Cotte, qui ont créé il y a 2 ans une start-up, Human and Tea, parce qu'ils voulaient absolument rapprocher les gens du thé et faire en sorte que les gens passent pas à côté du thé. Donc c'est un rendez-vous entre l'homme et le thé. Ils proposent 100 de thés différents, ils parcourent le monde chaque année pour découvrir des plantations. Et ils se sont approchés de l'art, et en l'occurrence d'une sculpture qui s'appelle Humanity. Et ils ont trouvé qu'en dehors du fait qu'il y avait un rapprochement des deux noms, Humanity and Human and Tea, ils ont trouvé que l'ADN du thé et de la sculpture, de l'art, se rapprochait par la symbolique de l'homme au milieu des siens, dans la fraternité, dans la joie et dans...
Oui, c'est ce lien social, hein, finalement, dont vous parliez aussi tout à l'heure, Charles. Le thé, human and tea, humanity. Bon, oui, c'est vrai qu'on peut, y voir une symbolique.
On peut effectivement y voir un symbolique là-dedans, indéniablement.
Merci beaucoup Isabelle pour votre appel. Vous pouvez continuer évidemment à nous appeler. Je voudrais qu'on s'arrête sur une de vos techniques, Vincent Balaï, dont on n'a pas parlé. Il y a une histoire de vapeur, je crois.
Oui, l'aromatisation chez nous se fait à la vapeur. Donc ça, c'est un savoir-faire unique qui existe donc depuis les années 30 chez Compagnie Coloniale. J'ai fait des recherches. Et en fait, ça permet de fixer l'arôme sur la feuille de thé et de fidéliser ce que vous sentez. Parce que le thé s'achète beaucoup par le nez aussi, parce qu'on le sent avant de l'acheter. Et ce que vous avez en bouche, parce que souvent on peut être déçu quand vous mettez de l'eau chaude, après vous ne retrouvez pas forcément les mêmes arômes en bouche qu'en nez.
Le coach, Riyad Boulanois.
Est-ce que ça se périme, le thé ou les infusions?
Oui, surtout alors les thés aromatisés, les arômes sont volatiles, donc nous on a une DLUO qui est entre 2 et 3 ans selon les mélanges, mais on a retrouvé des boîtes des années 50 avec du thé nature de Ceylan à l'intérieur. Alors il est buvable, hein, parce que s'il a été stocké dans un endroit sec, bon, c'est clair qu'en goût il a perdu un peu d'arôme.
Il faut préciser qu'il n'y a pas de problème pour la santé en lui-même. C'est juste une question, ça sera moins bon.
Ça sera moins bon.
C'est juste ce qu'il faut se dire. Mais après, ça a 2 ans de péremption, donc j'espère quand même qu'on...
Oui, on a largement le temps de boire.
Mois, donc on peut garder nos boîtes de thé à la maison.
Absolument.
Aucun problème là-dessus.
Ouais.
Comment est-ce que vous voyez les choses, l'avenir Charles, par exemple, vous en êtes finalement au début de l'aventure. Vous avez déjà des idées pour les années qui viennent?
Alors oui, effectivement. Alors nous, on est en train de lever des fonds en fait, actuellement. Pour pouvoir accélérer notre développement, on va essayer de chercher jusqu'à 1 million d'euros au global, hein, donc en equity, mais aussi en tout ce qui est subvention et prêt. Et puis on va essayer d'accélérer notre développement, donc aussi bien sur tout ce qui est nos revendeurs, nous avons 100 actuellement. On veut mettre plus d'éco-responsabilité aussi dans notre ADN, c'est vraiment très important pour nous. Accentuer le biologique, c'est vraiment aussi essentiel et ça fait partie de ce qu'on veut faire à long terme. Et toujours rester dans cette idée de stimuler l'envie des gens de prendre soin d'eux, mais sans vraiment se prendre la tête, avec des produits de qualité et une approche beaucoup plus démocratique.
Quentin, même question, vous en êtes où et vous allez vers où?
Alors nous, on veut continuer notre développement en restant accessible. C'est vraiment le maître mot, nous, c'est l'accessibilité, que ce soit au niveau des thés, des rencontres et des gens. Donc nous, pour l'instant, on continue à développer notre site web et pour le développer, on va continuer à faire des événements, des marchés, des salons. Ce week-end, je serai par exemple au salon Veggie World à Lille. On va également accentuer la partie B2B pour essayer de travailler avec des cafés, restaurants, épiceries fines, des chambres d'hôtes. Et notre quatrième créneau, finalement, ça va être notre petite boutique. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir des boutiques. Donc pour l'instant, on a un showroom, un magasin école à Marc-en-Barœul, dans notre entrepôt, dans notre usine, dans nos bureaux, qu'on va essayer de développer pour, par la suite, si... si on y arrive, ouvrir des boutiques voilà, dans des grosses villes en France ou à l'étranger, Bruxelles, Amsterdam.
La concurrence ou la relève, je ne sais pas. Et oui. Là, en tout cas, les jeunes entreprises sont là pour prendre la suite et continuer l'aventure du thé. La compagnie coloniale, elle est là depuis 1848, donc elle va continuer à être là l'année prochaine. Absolument. Et dans les années qui suivent. Vous vous inscrivez comment dans cet avenir? Quels sont vos projets?
Alors, nous, on a effectivement ouvert notre site internet qu'en 2016. Vous voyez, on a beau être une vieille marque, on est tout récent sur le net, mais on fait des super scores. Donc là, on est ravis. Donc ça va continuer. On va continuer à exploiter ce canal. On ouvre un showroom à l'usine. On est en train de le faire décorer en ce moment. Donc il sera prêt à partir de février-mars l'année prochaine parce qu'on a une grosse demande de tourisme industriel. En fait, les gens s'intéressent beaucoup à venir voir comment on fait. Et on a déjà par bouche à oreille sur place des groupes qui sont venus. Donc on va mettre l'accent sur ce tourisme. Et ensuite, l'export, puisqu'on a commencé la Corée cette année avec des très bons résultats. Et on a d'autres pistes déjà sur l'international.
Vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous?
Alors,
à la compagnie coloniale?
Nous sommes 16 personnes sur le site et nous avons 11 commerciaux sur le territoire en France et en Belgique.
Riyad?
Quel chiffre d'affaires pour
Alors, nous allons atteindre les 3 millions cette année. Donc, on est content.
Performance pour une boîte qui était au tribunal. Quoi.
Absolument.
Était après au tribunal. Bravo à vous.
Merci.
Ouais, ça vous laisse de la marge. Hein. Vous avez vu, vous avez encore pas mal de travail.
On a un peu de marge, mais
vous êtes sur la bonne voie.
Mais on est sur une voie positive pour l'instant. Et donc, du coup, on continue comme ça, effectivement.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'être venu nous parler thé aujourd'hui.
Merci.
Sur Europe 1.
Il est 13h38.
Europe 1.
On reste ensemble, la fin de l'année approche, avec le début 2019, les calendriers arrivent, les nouveaux agendas aussi, c'est la spécialité de la vigne et c'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Et tous les jours, vous nous présentez une entreprise française qui va bien. Celle-ci nous accompagne 365 jours par an.
Eh oui, cette entreprise, c'est Lavigne. Bonjour Christophe Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui la dirigez. Au départ, Lavigne, en 1958, c'est d'abord et avant tout un fabricant de calendriers. Quand elle démarre son activité, on est encore à l'époque de l'almanach traditionnel du facteur, c'est ça? Et on y est toujours d'ailleurs.
Absolument, c'était une entreprise familiale, il y avait un monsieur Lavigne, il y avait deux activités, une activité almanach du facteur et une deuxième activité qui était également destinée aux entreprises puisqu'on personnalisait les calendriers. Alors nous avons fait évoluer cette société.
Évidemment.
Petit à petit. Alors l'almanach du facteur qui fait presque partie des coutumes, je dirais, puisque nous sommes tous très très attachés à notre almanach en fin d'année. Des almanachs qui varient, effectivement, le petit chat, le petit chien, mais on a de l'originalité, on a des licences également.
Et cette activité, c'est toujours une grosse partie de votre production aujourd'hui?
C'est une partie de l'activité. On a développé d'autres activités en parallèle, notamment au niveau des entreprises. Il y a tout un pan d'activités aux entreprises qui sont la personnalisation des calendriers au nom de l'entreprise, des calendriers, deux types de calendriers au niveau des entreprises qui sont des calendriers qu'on connaît tous un peu, ce qu'on appelle la planche bancaire, vous savez, cette espèce de produit en carton un petit peu, mais nous avons surtout Lavigne proposé des produits illustrés avec de très belles images et nous proposons des partenariats notamment avec Géo, National Geographic, certains partenaires ou dans la cuisine actuelle par exemple, dans un autre domaine. Pourquoi? Parce que Lavigne a toujours cherché à se différencier.
Alors oui, c'est ce que j'allais dire, parce que quand on regarde l'histoire de Lavigne, en 1972 par exemple, c'est elle qui va créer l'almanach double, c'est ça?
Exactement, l'almanach double, donc il y a une possibilité de l'offrir avec un éventail beaucoup plus large, des informations qui sont venues enrichir. Pourquoi? Parce que un peu partout en France, les gens ont besoin d'avoir des informations. Aujourd'hui, ça nous paraît évident par Internet, mais il faut se mettre dans le contexte de 1972. Les gens, un peu partout en France, avaient besoin de types d'informations. Alors, donc, on a une armée, entre guillemets, de personnes qui viennent enrichir l'almanach. Un travail de cartographie que je voudrais souligner, qui est absolument remarquable.
Oui, et si vous êtes avec nous sur Europe1.fr, Anissa vous montre les différentes réalisations. C'est assez époustouflant.
Alors là, c'est l'almanach. Ça, c'est le calendrier pour les entreprises.
Oui.
Avec, vous avez devant les yeux, effectivement, le National Geographic, avec des photos absolument exceptionnelles. Donc l'idée pour les entreprises, c'est simple. C'est que, à la fois, comme vous l'avez souligné, c'est un cadeau. C'est un outil de travail, puisqu'on travaille sur un calendrier, on en a toujours besoin.
On est toujours en train de chercher la date ou de essayer de se rappeler à quel moment, oui, quelles sont les périodes de vacances et puis à quel jour est le rendez-vous chez le médecin, par exemple.
Hein,
une petite croix sur le calendrier.
Absolument.
C'est toujours comme ça que ça marche. Vous en faites 4 millions par an, c'est ça?
Même un peu plus.
Plus.
Un peu plus, ouais, pas loin de 7 millions en tout. Tout confondu. Parce qu'il y a les facteurs, mais il y a toute l'activité, évidemment.
4 millions, c'est pour les facteurs, c'est ça?
Voilà, pas très loin.
C'est la pleine période de distribution, là, en ce moment, mais ce n'est pas la période de production, je suppose.
Alors, la période de production est déjà terminée.
C'est pendant l'été?
Ça commence, je dirais, aux alentours du mois de septembre. Août-septembre, on commence à produire ces millions d'exemplaires au mois d'août-septembre. Et ensuite, ils sont évidemment commandés par le facteur qui va ensuite les proposer en fin d'année dans les foyers, dans les différents foyers.
Que dit notre coach, Riyad Boulanoir?
Moi, je me demande comment le numérique a réussi à vous épargner.
Alors, vous avez raison. Deux choses. D'abord, on a un almanach sur lequel on a développé ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et donc, grâce à une petite application avec laquelle nous travaillons, vous téléchargez votre petite application et vous posez votre téléphone sur votre almanach, notamment celui des planètes, qu'il faut demander le modèle des planètes, d'accord, et vous allez voir la réalité augmentée, vos planètes se déplacer. C'est absolument extraordinaire. Et dans un autre registre, toujours dans la partie réalité augmentée pour les entreprises, nous proposons un cahier notebook, on appelle ça les notebooks, comme un cahier normal, qu'on va personnaliser au nom d'entreprise, mais on va également ajouter à ce cahier une vidéo sur la couverture.
C'est-à-dire, comment vous faites? Vous mettez à l'intérieur de la couverture, alors, vous intégrez une vidéo à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce qu'on fait très schématiquement? Vous avez, par exemple, là sur la table, vous avez un modèle d'une entreprise, que je ne citerai pas, mais une entreprise, qui nous a donné son visuel, tout simplement.
Oui.
Sur ce visuel, nous allons le prendre en photo, comme le scanner. Ce scan, nous allons associer à ce scan une vidéo, tout simplement la vidéo de l'entreprise, de façon à ce que l'entreprise qui va ensuite le distribuer va pouvoir présenter la vidéo de son entreprise là-dessus. Alors, évidemment, les gens me disent « Mais attendez, le papier, comment ça se passe, l'histoire ?» En fait, on n'a plus d'histoire de papier, puisque le papier, maintenant, véhicule du numérique. Et c'est ce qui a permis à Lavigne de se développer depuis.
Lavigne, c'est dans la Sarthe, toujours, hein, depuis le début.
Très bien, absolument, dans la Sarthe, tout à fait.
À côté du Mans, au Maillet, c'est ça?
Au Maillet, tout à fait, exactement.
C'est une filiale du groupe Hexaconta Clairefontaine. C'est
absolument
important d'être dans un groupe dont l'ADN, effectivement, c'est le papier.
Absolument. Alors d'abord, c'est un groupe familial, ce qui est très très bien, puisque ça permet d'échanger directement avec nos actionnaires, qui sont présents presque au quotidien avec nous. Et nous vivons ensemble l'évolution des produits, des investissements. Appartenir à un groupe, ben, c'est une force considérable. Surtout que c'est un très beau groupe, aujourd'hui connu et reconnu sur le marché français, de par toutes ces différentes marques qu'a notre groupe. Et pour nous, pour la société Lavigne, évidemment, un gros, gros soutien, bien évidemment.
C'est l'entreprise Lavigne, c'est elle qui va bien. Merci. Merci d'être venu.
Merci infiniment.
Nous
c'est moi qui vous remercie de m'avoir
invité. Christophe Blanc, aujourd'hui, merci, sur Europe 1.
Il est 13h48.
Europe 1.
Vous avez des chèques cadeaux peut-être dans votre entreprise. Et si au lieu du petit carnet, on vous offrait des titres dématérialisés, utilisables n'importe où, c'est We Do Gift et c'est la solution aujourd'hui.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h tous les jours et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour.
Oui, c'est la période de Noël et certaines entreprises distribuent en ce moment des chèques cadeaux valables dans certains magasins pendant une période donnée. Elisabeth, vous avez trouvé les chèques cadeaux valables partout, c'est la solution, ça s'appelle We Do Gift.
Oui, vous connaissez le chèque cadeau classique, hein, c'est ce carnet de bons de 5, 10, 15 euros, parfois plus. Il y a de plus en plus de Français qui les reçoivent de la part de leur entreprise. Ce sont des chèques cadeaux souvent mis par des sociétés comme Cadeo, Cadoc ou encore Tir Groupé. Vous les récupérez, vous allez en magasin. Mais là, avec We Do Gift, vous pouvez utiliser un chèque cadeau partout en France. Il n'est pas forcément en papier, il est valable au centime d'euro près. Il est impossible à perdre, c'est aussi avantageux pour les entreprises. Elle les distribue en quelques clics, pas de coût de livraison et pas de stockage.
Bonjour Jérôme Proust.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de We Do Gift. Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur ce secteur du chèque cadeau dématérialisé? Ça fonctionne bien, a priori, l'échec classique?
Ça fonctionne très bien. C'est un marché qui existe depuis de nombreuses années. Mais on a trouvé qu'il y avait une faille dans le marché. Cette faille, c'est tout simplement le modèle économique. Aujourd'hui, We Do Gift permet de distribuer aux entreprises très simplement, aux bénéficiaires de consommer très simplement. Mais on se rend compte que les entreprises ne savent pas si l'argent des chèques cadeaux est consommé ou pas. Et donc, on a créé un tableau de bord pour permettre aux entreprises et aux comités d'entreprise de récupérer tout simplement les chèques cadeaux qui sont périmés parce que oui, il y a une date de consommation, comme vos pots de yaourt. Et donc, il faut les consommer avant cette date. Et soit ils sont consommés, soit effectivement, ils sont remboursés à vos entreprises, tout simplement.
Alors, c'est assez astucieux. On comprend bien que tout est numérique. Mais en termes de données personnelles, ça veut dire que l'entreprise, elle sait exactement ce qu'on a dépensé ou ce qu'on n'a pas dépensé? Ça se passe comment?
Alors, non, bien sûr, c'est votre liberté individuelle et personnelle. L'entreprise, elle ne sait que pour ses campagnes de cartes cadeaux si la dotation est consommée ou pas. Elle ne voit pas qui a consommé, dans quelle enseigne. Par contre,
Elle sait combien il reste.
Il reste une piste d'audit. Elle a des statistiques. Mais bien sûr, les salariés peuvent se rassurer. Leur employeur ne sait pas où ils consomment.
Alors, vous passez des partenariats avec des enseignes comme les chèques cadeaux classiques ou...
Tout à fait. Alors, la différence, c'est qu'on a les partenariats du retail, du monde du magasin. C'est-à-dire qu'on va avoir du IKEA, du Decathlon, du Fnac. Mais la différence, c'est que vos chèques cadeaux papier, vous ne pouvez pas les utiliser sur Internet. Donc, quand on dit on a IKEA, on a IKEA.fr. Quand on a Decathlon, on a Decathlon.fr. Et ainsi de suite.
Et voilà. Pas obligé de se déplacer.
Non. Et après, vous pouvez aussi faire vos achats sur Internet et retirer la marchandise en magasin. Il y a le click and collect aussi. En fait, les consommateurs, aujourd'hui, ils ne rentrent pas dans des cases. Ils peuvent faire leurs achats de Noël sur Internet et faire leurs soldes en magasin, ou le contraire. Donc, c'est juste se caler sur les habitudes d'achat des consommateurs.
Donc, finalement, c'est une sorte de carte de crédit, enfin, une sorte de carte où il y a une réserve d'argent donnée par l'entreprise et on en fait ce qu'on veut.
En fait, on est comme une banque en ligne. C'est-à-dire qu'ils ont leur wallet, leur portefeuille électronique en ligne et s'ils le souhaitent, ils peuvent payer en magasin avec un smartphone, aller sur Internet ou utiliser leur carte, tout simplement.
Le coach Riyad Boulanoir.
Alors, vous parlez de banque en ligne. Comment vous assurez que ça ne puisse pas être utilisé à des fins de blanchiment?
Alors, en fait, on travaille exclusivement en B2B2B. En B2B2C, excusez-moi. Donc, lorsqu'on travaille qu'avec des entreprises, des professionnels, des PME ou des comités d'entreprise, on vérifie les inscriptions des entreprises. Et donc, après, on a toutes des procédures d'anti-blanchiment d'argent et de contrôle. Après, la différence, contrairement, par exemple, au compte Nickel, on appelle ça un close-loop. C'est-à-dire que les salariés, les porteurs de cartes ne peuvent dépenser que dans un réseau. On ne peut pas convertir vers un compte bancaire ou autre fin. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent dépenser que dans notre réseau de partenaires.
Ça fait combien de temps que vous existez?
4 ans et demi.
4 ans et demi. Combien de clients aujourd'hui?
Alors, pratiquement 5 000 aujourd'hui, 1 million de bénéficiaires, 70 millions d'euros de distribution. On est rentable depuis 2016, depuis le 1er janvier 2016. Et c'était important pour prouver qu'il existe une autre forme de modèle économique, un peu challenging pour ceux qui font du papier, et qui est pérenne.
Et ça s'appelle We Do Gift. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Riyad qui était notre coach.
Merci à
très vite, évidemment. Nous, on se dit à demain.
À demain,
on va mettre les voiles demain. Nous partirons pour le Salon Nautique.
Merci Raphaël Duchemin. À 14h pile dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat et ses incroyables récits. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire mythique dans le monde de l'escalade. L'histoire de deux Britanniques qui, en 1977, se lancent dans l'ascension de l'Ogre au Pakistan et qui en redescendent à plat ventre.
Christophe Ondelat vous raconte l'ascension de l'Ogre, c'est à 14h pile et c'est sur Europe 1.